prédication répond en partie aux prières qui ont été levées pour Gaza. Je n'entends pas la voix de Dieu. Je ne l'entends pas me parler. Il y a des chrétiens fidèles qui passent leur vie sans entendre Dieu leur parler personnellement. Beaucoup de croyants vivent comme si Dieu avait dit ses dernières paroles dans la Bible et s'était ensuite retiré dans un grand silence, ou comme si on ne pouvait l'entendre que par analogie. Puisque Dieu a dit ça dans la Bible, alors ça veut dire ça pour moi. Et bien sûr, ça c'est la voie royale, parce que la Bible c'est le lieu où on apprend à connaître Dieu, parce que c'est sa parole révélée. Mais une fois qu'on connaît Dieu et que Dieu nous connaît, qu'on est dans cette relation particulière avec lui et personnelle, on apprend aussi à reconnaître sa voix dans nos vies particulières, dans nos choix à nous, nos décisions très concrètes de la vie, de tous les jours, dans nos orientations de vie. Jésus a dit dans le chapitre 1 du livre des Actes qu'il enverrait une puissance, l'Esprit Saint, et qu'il ferait de nous ses témoins partout, à Jérusalem et au-delà. Une puissance, a priori, ce n'est pas quelque chose qui passe tout à fait inaperçu. L'Esprit nous envoie vers la moisson pour que nous annoncions l'Évangile avec puissance. Le prophète Joël dit « Vos filles et vos fils prophétiseront ». Ça a été repris par Pierre dans son discours après la Pentecôte. « Vous parlerez au nom de Dieu ». Si vous croyez en Jésus, vous avez reçu cet Esprit Saint. Et cet Esprit, il parle. Il parle aujourd'hui, il révèle aujourd'hui, il enseigne aujourd'hui. Cet Esprit, il veut nous emmener dans une relation vivante, une écoute active, une marche quotidienne avec Dieu. Mais comment est-ce qu'on l'entend ? Comment ça se passe ? C'est ce qu'on va voir ce matin, en tout cas je l'espère, en ouvrant nos Bibles dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Je vais prier. Seigneur, on l'a déjà évoqué ce matin, le monde a un profond besoin d'entendre ta parole. Non seulement de l'entendre, mais de la recevoir. De la recevoir par l'Esprit. Et on sait que ça, c'est pas une œuvre humaine. On ne peut pas s'approcher de ta parole avec notre seul intellect et prétendre pouvoir la comprendre. Ça, c'est l'œuvre de ton Esprit, Seigneur. Et nous sommes ici ce matin pour reconnaître que nous avons besoin de ton Esprit pour comprendre cette parole. Alors c'est lui que nous invoquons, c'est un bon jour pour cela. Nous invoquons ton Esprit Saint sur nous-mêmes, Seigneur, pour que cette parole, nous puissions la comprendre, non pas avec notre tête, mais avec notre esprit, avec notre cœur, avec nos tripes, pour qu'elle nous mette en mouvement. Nous te remercions parce que tu as dit qu'elle ne revenait pas à toi sans effet, nous le croyons. Amen. 1 Corinthiens 2 nous dit ceci, je vais lire les 16 premiers versets. C'est Paul qui parle aux Corinthiens et qui leur dit « Pour ma part, mes frères, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu. Car j'ai jugé bon parmi vous de ne rien savoir d'autre que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais chez vous dans un grand état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma proclamation n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit, de puissance, pour que votre foi ne soit pas en la sagesse des humains, mais en la puissance de Dieu. Cependant, c'est bien une sagesse que nous énonçons parmi les gens accomplis, une sagesse qui n'est pas de ce monde, ni des princes de ce monde, qui doivent être réduits à rien. Nous énonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu a destinée d'avance depuis toujours à notre gloire. Aucun des princes de ce monde ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas venu au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les humains sait ce qui relève de l'humain, sinon l'Esprit de l'humain qui est en lui ? De même, personne ne connaît ce qui relève de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or nous, ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en associant le spirituel au spirituel. Mais l'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'être spirituel, lui, juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée du Christ. Je trouve qu'on pourrait presque, on pourrait s'arrêter là en fait, j'allais dire presque, mais on pourrait s'arrêter là. Il me semble que Paul a tout dit, mais bon, il faut que je prêche, donc on ne va pas s'arrêter là. Mais je trouve que ce texte se suffit vraiment à lui-même. Quand Paul écrit cette lettre aux Corinthiens, il s'adresse à une église jeune qui ne manque pas de défis et de difficultés. Il suffit de lire ces deux épîtres, vous verrez qu'elle est bien travaillée. Et elle est notamment influencée par la culture de son temps. C'est un petit peu ce qu'on voit dans ce texte-là. Corinthe, c'est une ville brillante, commerçante, une ville qui est marquée notamment par l'usage de la rhétorique chère au monde grec. Pas seulement Corinthe, en fait, hein, tout le monde grec. Et la rhétorique, c'est l'art du discours. En ce temps-là, l'usage de la rhétorique pouvait littéralement être une question de vie ou de mort, parce que quand vous étiez en procès, dans l'Antiquité, dans le monde grec, vous deviez vous défendre vous-même, vous n'aviez pas d'avocat. Et si votre vie était en jeu, ben, il valait mieux être convaincant, quoi. Donc cet art oratoire était très travaillé. Vous appreniez à persuader, à séduire par le discours. Les Grecs savaient produire des discours brillants. Ils valorisaient les bons orateurs. Ils avaient leur champion parmi les bons orateurs. Et peut-être qu'on sent quelque chose de ça aussi dans l'Épître aux Corinthiens, quand certains disent « moi je suis pour Apollos, moi je suis pour Paul ». Et puis il y a toujours le super spirituel qui arrive et qui dit « moi je suis pour Christ ». Ça crée des esprits de parti. On cherche son champion. Et Paul, dans ce texte, comme dans d'autres d'ailleurs, prend tout le monde à contre-pied en disant qu'il vient en faiblesse, en crainte, avec un grand tremblement. On ne sait pas exactement pourquoi il le dit. Est-ce que c'est dû à une santé fragile ? Est-ce que c'est dû à l'accueil difficile qu'il avait reçu à Athènes ? On voit ça en acte 17, où on s'est littéralement payé sa tête parce qu'il parlait de résurrection des morts. On ne sait pas exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne se défend pas de sa faiblesse. En fait, il assume sa faiblesse. Parce que la sagesse avec laquelle il arrive, dit-il, ce n'est pas une sagesse humaine, c'est celle de Dieu. Cette sagesse, elle ne vient pas d'en bas. Elle ne vient pas d'un discours qu'il aurait bien construit, bien structuré. Elle vient d'en haut. Dans un monde qui est saturé d'opinions, de podcasts, de discours divers et variés, il y en a beaucoup des paroles. Il y a peut-être plus de paroles aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu, parce qu'on a accès aux paroles de tout le monde, dans le monde entier. C'est à la fois une grande bénédiction, et puis en même temps, ça fait beaucoup de bruit. On a des concours d'éloquence. Comment reconnaître là-dedans une parole qui vient vraiment de Dieu ? Je suis assez surpris de la facilité, alors surpris oui et non, mais de la facilité qu'ont beaucoup de jeunes à s'exprimer en public. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais je trouve qu'à chaque fois qu'ils prennent la parole, c'est remarquable. Enfin moi, en tout cas, quand j'avais leur âge, on n'était pas fiers quand on passait devant. C'était pas facile, quoi. C'était un vrai exercice compliqué. Et avant que j'en arrive à pouvoir parler devant vous comme je le fais aujourd'hui, il a fallu du temps, je peux vous dire, parce que c'était pas comme ça quand j'étais plus jeune. Alors, c'est ma petite psychologie de comptoir, j'en sais rien, mais enfin, je me dis que l'avènement des réseaux sociaux, notamment la possibilité de faire des vidéos et donc de s'habituer à être face caméra, ou de faire même des audios, des vocaux sur WhatsApp, des choses comme ça, n'y est sans doute pas pour rien. Les jeunes ont les codes pour une communication percutante, ils savent faire, ils sont nés là-dedans en fait. Et je crois à ces capacités, je crois qu'elles sont bonnes. Je crois qu'elles peuvent être mises au service de Dieu comme un bon instrument pour la justice. Je crois qu'on doit proposer l'excellence dans les talents que Dieu nous a confiés et que l'excellence oratoire, ça fait partie des talents qu'on peut avoir et qui sont à faire fructifier. Je n'ai pas du tout de problème, moi en tout cas, avec la rhétorique. Pour tout vous dire, je l'ai même étudiée. Mais évidemment, elle ne peut rien à elle seule. Paul parle là d'une sagesse qui n'est pas celle des puissants et des rhéteurs grecs. Il parle d'une autre sagesse, mystérieuse et cachée, nous dit-il, qui vient de Dieu. Mystérieuse, ça ne veut pas dire secrète. Le mot grec utilisé ici désigne quelque chose que Dieu révèle à ses enfants au moment voulu. Ça veut presque dire l'inverse de ce qu'on comprend à première vue. Ce n'est pas quelque chose qu'on aurait à découvrir, nous, à force d'efforts. En fait, c'est quelque chose que Dieu révèle. Au verset 9, Paul parle de ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu au cœur de l'homme et ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ça, c'est une citation libre d'Ésaïe 64, verset 3, dans la version de la Septante. Pourquoi je vous le dis ? Parce que c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament, d'où proviennent souvent les citations qu'on trouve dans le Nouveau Testament, parce que c'était la traduction utilisée par les Juifs au 1er siècle. Et je ne vais pas allonger la parenthèse plus que ça, mais je trouve intéressant que les premiers chrétiens se basaient sur une traduction. Ça dit quelque chose aussi de notre rapport à la parole. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a des choses qui sont restées cachées aux yeux des hommes, des choses qu'ils ne peuvent pas atteindre par eux-mêmes, d'une certaine manière, pas à force d'études ou de je ne sais quoi, enfin d'efforts de leur part, des choses qui sont cachées à leurs oreilles, c'est-à-dire à leur entendement, à leur cœur, des choses donc qu'on ne peut pas deviner, qu'on ne peut pas construire par une belle éloquence, mais qui sont révélées par le Seigneur à qui ? À ceux qui l'aiment, à ceux qui aiment Dieu. Et c'est pourquoi vous avez des érudits qui vraiment connaissent la Bible de A à Z, des gens qui sont brillants, brillants dans ce qu'ils peuvent dire sur la parole, parce qu'ils peuvent tout vous sortir, quoi, sur l'historique, sur la littérature biblique, ils savent tout, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Et le Seigneur ne les connaît pas. Et ceux-là, malgré toute leur érudition, sont plus aveugles que l'aveugle de naissance qui a recouvré la vue. J'aime beaucoup ce texte, on le trouve dans Jean 9. C'est les pharisiens qui vont voir cet aveugle qui a été guéri. Il nous est dit ici, en Jean 9, verset 24, « Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il parle de Jésus. Et que répond l'aveugle ? Il dit, « Si c'est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Mais je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas entendu. Pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau ? Est-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'insultèrent et dirent, « C'est toi qui es disciple de celui-là. Nous sommes les disciples de Moïse, la loi, les amis. » Ils l'insultèrent et dirent, pardon, je l'ai déjà dit ça, mais bon, peut-être ils l'ont insulté deux fois, je ne sais pas, c'est possible. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'entend. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si celui-ci n'était pas issu de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Toi, tu es né tout entier dans le péché et c'est toi qui nous instruis. » Et ils le chassèrent dehors. On a là la rencontre entre des érudits qui connaissent la parole sur le bout des doigts et quelqu'un qui a rencontré Jésus, qui a une théologie, bon, faut voir, on pourrait en discuter. Mais il a rencontré Jésus, et Jésus lui a ouvert les yeux, et il a compris quelque chose que ses érudits n'ont pas compris. Qu'il est dur, ce cœur de l'homme, et qu'elle est déconcertante, cette sagesse de Dieu. Mais Dieu n'a pas gardé cette sagesse pour lui, il a choisi de la révéler. Et le moyen qu'il a pour la révéler, il est en toi, il est déjà en toi. Tu as peut-être déjà dit « j'aimerais entendre Dieu me parler » ou peut-être que tu t'es déjà dit « en fait, je ne suis pas assez spirituel pour toi ». Il y a des gens là, ils disent « oh, Dieu m'a dit cette nuit, tout ça ». Moi, ça ne m'arrive pas. Et moi, je sais que si tu as donné ta vie à Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, alors Dieu te parle. Le problème, c'est que on a souvent les oreilles bouchées. Tu as l'Esprit Saint en toi. Et l'Esprit Saint, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une émotion pendant un chouette moment de louange. L'Esprit Saint, c'est une personne vivante qui examine tout, même les profondeurs de Dieu, nous dit le verset 10. Personne ne connaît ce qui relève de Dieu sinon l'Esprit de Dieu, nous dit le verset 11. Et cet esprit qui connaît ce qui relève de Dieu, il est en toi pour que tu saches ce que Dieu t'a donné par grâce. Alors quand tu es rempli de l'Esprit, quand tu lui laisses la place qui lui revient, toute la place en toi, ta parole devient spirituelle. Tu reçois des pensées de Dieu, parfois pour toi-même, parfois pour d'autres, pour les transmettre, parce qu'il nous envoie en mission. Dieu te parle. Il peut te parler par la lecture d'un texte biblique, quelque chose qui te saute aux yeux, peut-être un texte que tu as lu 10 fois, mais ce jour-là, c'est pour toi. Et tu l'entends d'une manière toute nouvelle, parce que Dieu te parle à toi. Il te parle par une pensée soudaine pour un frère ou pour une sœur. Il te parle par une image. Il te parle par une conviction qui te saisit, que tu dois dire ou faire quelque chose pour un frère, une sœur qui est là. Il te parle par un rêve au petit matin où Dieu te montre quelque chose d'important pour ta propre vie. Les deux questions qu'on peut se poser, c'est la première, c'est est-ce qu'on met en place, je dirais, les conditions nécessaires à l'écoute de Dieu ? Est-ce que nous lisons la Bible pour connaître sa voix ? Est-ce que nous passons du temps avec lui dans la prière, mais aussi dans l'écoute de ce qu'il fait affleurer à la surface de notre conscience. Parfois, nos temps de prière sont des monologues. On parle beaucoup et on n'écoute pas. Et du coup, on n'entend rien. Est-ce qu'on prend un temps à part, un temps où on fait taire les multiples voix du monde, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont très nombreuses, pour écouter ce que Dieu, lui, nous dit ? Et l'autre question, c'est, et quand on entend sa voix, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai vraiment gardé en mémoire ce qu'avait dit Alain Audercé quand il est passé chez nous, il y a, je sais pas, un peu plus d'un an, un an et demi, qui avait dit, quand tu fais cet exercice-là d'écoute, il disait que dans son expérience à lui, ce qu'il avait remarqué, c'est que la première voix, c'était celle de Dieu, et la deuxième, c'était celle du doute. Et elles se suivent, l'une derrière l'autre. Et je crois que c'est assez juste. Ça me fait penser à la parabole du semeur, quoi. Dans quelle terre tombe cette parole que nous avons reçue ? Est-ce qu'elle tombe à côté du champ, parce que en fait, c'est là qu'on se trouve, à côté du champ, de sorte que le diable enlève cette parole à peine semée ? Est-ce qu'elle tombe dans les cailloux d'une foi superficielle, qui se réjouit de la parole entendue, mais qui en fait ne fait rien de ce qu'il a entendu, parce qu'il n'y a pas de racine ? Est-ce qu'elle tombe dans les ronces de nos inquiétudes, des richesses ou des plaisirs du monde qui lui font concurrence à cette parole, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits ? Ou est-ce qu'elle tombe dans la bonne terre d'un cœur qui la retient ? Je pense à Marie qui disait qu'elle repassait ces choses-là sur son cœur. Est-ce qu'elle tombe dans la bonne terre d'un cœur qui la retient, qui la chérit, et qui du coup en fait quelque chose de cette parole ? Ces paroles, ce sont ces fameuses paroles de sagesse ou paroles de connaissance dont parle 1 Corinthiens 12, verset 8, des paroles d'exhortation, des paroles reçues de Dieu pour nous-mêmes ou pour quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas forcément quelque chose d'absolument spectaculaire, en mode « Dieu m'a dit que » et puis on va vers l'autre et on lui dit « Dieu m'a dit que tu dois faire ceci ou tu dois faire cela ». En fait, il faut beaucoup d'humilité. Ce sont des semences que l'Esprit met dans notre cœur pour édifier, pour encourager, pour consoler, ça peut être pour nous, ça peut être pour d'autres. Celui qui parle en prophète parle aux humains, il construit, il encourage, il réconforte, nous dit 1 Corinthiens 14, verset 3. Et ensuite, ces paroles que nous recevons sont soumises au discernement, alors évidemment à notre discernement à nous, si c'est une parole pour nous, et au discernement des autres, si c'est une parole pour les autres. 1 Thessaloniciens 5, verset 20-21 dit « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon ». C'est notre travail de retenir ce qui est bon, d'examiner ce qu'on nous dit et de retenir ce qui est bon. Ce n'est pas à celui qui apporte la parole de dire en vrai si elle vient de Dieu. 1 Jean 4, verset 1 nous dit aussi « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit. Examinez plutôt les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Et ça, c'est très important parce qu'on peut même utiliser la Bible avec un mauvais esprit. C'est ce qu'a fait Satan dans les tentations, dans la tentation de Jésus au désert. Il utilise la parole. On se dit, c'est biblique. Non, c'est pas biblique. Pourtant, ça sort de la Bible. Donc, il faut examiner les esprits parce qu'une parole biblique dite par Satan, c'est un mensonge. Parce qu'il tord la Bible, il tord la parole. Alors évidemment, ces paroles ne doivent jamais être imposées à l'autre, ni détachées de la parole révélée de Dieu, qu'est la Bible, puisque Dieu ne se contredit pas, évidemment. Alors comment développer cette sensibilité à l'esprit, à ce qu'il peut nous dire, à nous? Comment créer en nous cet espace intérieur où cette voix peut se faire entendre? Et c'est là que je viens avec mes deux pots, là. Voilà, vous devez vous demander depuis le début pourquoi ils sont là. Ils sont là pour ça. On est comme des éponges. On est comme des éponges. Voilà. Là, on a une eau claire et pure, et c'est de l'eau claire et pure qui sort de l'éponge. C'est facile comme illustration, hein. Je pense que vous la saisissez assez vite. Et puis là, vous noterez qu'à la limite, vu de loin comme ça, ça paraît même être la même chose. Hein. Même quand je presse, on ne voit pas trop la différence. Pourtant, ce n'est pas la même chose qui en sort, du tout. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, comme c'est du lave-glace, je vais me laver les mains. Hein. Il y a une eau qu'on peut boire, là, et puis la deuxième... Si vous la buvez, a priori, ça ne va pas bien se passer pour vous, vous n'allez pas passer un bon moment. Nous sommes des éponges. Quand nous retenons ce que nous avons à l'intérieur de nous, on peut donner le change, vu de loin, deux éponges semblent pareilles. Mais à partir du moment où on commence à ouvrir nos bouches, à parler, autre chose se passe, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et donc, si tu veux qu'il sorte de ta bouche des paroles qui viennent de Dieu, il faut que ton cœur soit rempli du Seigneur, de sa parole révélée, de l'intimité qu'il aura pu bâtir avec toi parce que tu lui auras laissé de l'espace dans la prière, dans des temps mis à part, dans tes méditations, peut-être durant la vaisselle, ou dans tes louanges, pendant que tu passes l'aspirateur. Ce n'est pas forcément des temps complètement dédié, ça peut être tout au long de la journée. On a cette relation qui est vivante avec Dieu. L'homme naturel, psychique, selon le terme grec, c'est celui qui fonctionne à partir de sa volonté propre, de son raisonnement propre, de ses émotions propres. Et à celui-ci, la voix de l'esprit semble folle, étrangère, inaudible. Même quand il l'entend, il la laisse de côté. Et alors, de sa bouche sort ce qui est naturel. L'homme spirituel, au contraire, est rempli de l'esprit. Lui, il se nourrit de Dieu, il se nourrit de sa parole, il se nourrit de sa présence, il se nourrit de la prière. Il se rend disponible, il fait de la place à l'esprit de telle sorte que, lorsqu'il l'entend parler, il reconnaît sa voix. Il reconnaît sa voix. Et alors celui-là, quand il ouvre la bouche, ce qui en sort est spirituel. Ce sont des paroles de grâce et de vérité qui sont pleines du fruit de l'esprit. Si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, si vous l'avez fait de tout votre cœur, l'Esprit Saint vit en vous et il vous parle. Il reste que parfois, nous vivons comme des païens, comme des hommes sans Dieu, des hommes et des femmes sans Dieu, parce que nous n'accordons pas foi à ce que la Bible nous dit. Et c'est peut-être la pire des situations parce que nous laissons l'ennemi voler ce que Dieu a déposé dans nos cœurs. La première parole, c'est celle de Dieu. La deuxième, c'est celle du doute. Alors cette semaine, on pourrait essayer d'apprendre à écouter différemment. C'est Pentecôte. Nous avons l'Esprit Saint. Si nous avons placé notre foi en Christ, nous avons l'Esprit Saint. Dieu nous parle. On peut essayer d'apprendre à l'écouter. Nous vivons dans un monde qui parle fort, qui parle vite, qui parle tout le temps, mais Dieu parle aussi, il parle encore. Sauf que, sauf exception, il me semble, ça c'est issu de mon expérience personnelle, il me semble qu'il ne crie pas pour couvrir le bruit ambiant. Parfois il crie, parfois ça arrive. Le dernier exemple en date, bien marquant pour tout le monde, je pense que c'est la pandémie du Covid-19. De mon point de vue, c'était un cri de Dieu, une mise à l'arrêt du monde où on pouvait entendre ce qu'on a affiché sous l'horloge là-bas, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Alors parfois, quand on pousse le bouchon un peu loin, Dieu se fait entendre. Il prend son mégaphone et on l'entend fort et clair, encore que. Est-ce qu'on a entendu ? Mais souvent, dans le quotidien, Dieu chuchote depuis l'intimité de notre relation avec lui. Il est là, derrière la porte fermée de notre chambre, lorsqu'on prend ce temps d'être avec lui, seul, en retrait du monde. Et dans ces moments-là, il va mettre dans notre cœur une parole, un verset, une image, une personne. Dieu ne cherche pas des grands hommes de Dieu, des gens qui impressionnent par leur éloquence, justement, par leur manière de se présenter. Dieu se moque du nombre de followers sur Instagram. Dieu cherche des cœurs disponibles, des gens ordinaires, comme vous, comme moi, qui veulent l'écouter, qui veulent l'entendre. On n'a pas besoin d'être appelé prophète, d'être appelé pasteur ou d'avoir un titre de je ne sais quoi. On a juste besoin d'être une éponge bien remplie du Saint-Esprit. Et ensuite, on a besoin d'ouvrir la bouche. Je prie pour que notre Église ouvre la bouche, pour qu'elle partage le bon dépôt qu'elle a sur le cœur. La puissance de la Pentecôte, elle n'est pas, à mon avis, sur le côté spectaculaire des langues de feu ou du bruit qui a retenti dans la chambre haute, même si effectivement, waouh, c'est quand même quelque chose. La puissance de la Pentecôte, c'est celle qui t'envoie faire de toutes les nations des disciples. La puissance de la Pentecôte, pour moi, je la vois plus dans ces 3000 personnes qui se sont converties suite au discours de Pierre que dans cet événement spectaculaire des langues de feu. Je trouve ça beaucoup plus spectaculaire, 3000 personnes qui se convertissent, franchement. Et elle le fait non sur la base de notre sagesse humaine, qui nous fait peut-être imaginer des techniques d'évangélisation, des programmes, des manières de faire, mais elle le fait sur la base du Seigneur qui met des gens sur notre route et des paroles sur notre cœur. En chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons, ressuscitez les morts. Ça, c'est le programme pour l'Église. C'est le programme pour l'Église. Mais rien de tout ça ne se fait sans une dépendance à Dieu, au nom de Jésus, par son Esprit Saint. Alors, comme ça commence par là, je vous lance ce défi cette semaine. Un défi tout simple parce qu'en fait, ça n'a rien de compliqué. Parfois, on se fait une montagne de ce qu'il faudrait faire pour pouvoir entendre Dieu. Ça n'a rien de compliqué. Chaque jour, je vous propose de se caler 5-10 minutes, plus si le cœur vous en dit, mais déjà 5-10 minutes pour commencer si vous ne l'avez jamais fait. 5-10 minutes chaque jour dans votre calendrier, là, vous vous posez en silence et vous demandez à Dieu: Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu veux me dire que j'ai jamais pris le temps d'écouter ? Et puis vous vous taisez, vous écoutez, vous essayez de voir ce qui se passe en vous. Et quand une pensée monte, quand un verset vient, quand une personne est mise dans notre cœur, eh bien ne l'écartons pas. Notons-le, méditons cette parole qu'on a reçue. Et si elle nous dérange, et peut-être particulièrement si elle nous dérange, laissons-lui sa chance à cette parole. Demandons à Dieu, est-ce que le doute s'installe parce que je suis trompé par mon cœur tortueux, parce que c'est vrai que j'ai un cœur tortueux, ou est-ce qu'il s'installe parce que toi, tu veux me faire avancer par ta vérité et qu'en fait, ça me rend inconfortable. Ça me rend inconfortable. Alors j'ai envie de l'étouffer. Être un disciple, c'est d'abord être quelqu'un qui apprend à reconnaître la voix de son maître. Eh bien, faites cela et vous verrez que Dieu parle encore. Je vais prier. Seigneur, nous vivons dans un monde qui est tellement bruyant, tellement distrayant, un monde où le prince des ténèbres sévit, en fait, et où il cherche constamment à nous éloigner de toi par tout un tas de distractions, par des tas de paroles qui peuvent nous sembler intéressantes, mais qui, au fond, ne nous édifient pas. Et surtout, ne nous approche pas de toi parce que ce ne sont pas tes paroles, ce sont les paroles du monde qui nous entoure. Seigneur, nous passons beaucoup de temps chaque jour à écouter ces paroles. Et probablement que nous en passons trop peu à écouter ta parole, par la lecture de ta parole révélée d'abord, parce que c'est là que nous apprenons à entendre ta voix, à comprendre comment toi tu parles, quel est ton accent, ta manière de causer, ta manière de t'adresser aux hommes. C'est là qu'on l'apprend. Et puis ensuite, ta parole qu'on reçoit dans la prière et qui nous est familière parce qu'on a appris comment tu parlais. On connaît ta voix parce que nous sommes tes brebis. Seigneur, c'est ce que nous voulons être, tes brebis, attentifs à ta voix. Nous voulons que, au milieu des tintements de cloche du troupeau, Seigneur, quand ta voix se fait entendre, nous la reconnaissions immédiatement et nous accourions vers toi, parce que nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous savons que ça passe par le fait de passer du temps avec toi, plus de temps avec toi qu'avec n'importe qui d'autre, pour que ta voix soit claire, cristalline, quand elle se fait entendre dans les temps de retrait que nous prenons avec toi. Pour que ta voix se fasse entendre claire et cristalline au milieu de toutes les autres voix qui essayent de la couvrir. Seigneur, tu parles encore. Tu vis en nous par ton Esprit Saint. Tu nous parles. Seigneur, nous voulons t'entendre. Nous voulons t'écouter. Et nous savons que ton Esprit Saint nous envoie vers les nations. C'est un bien grand mot pour dire que tu nous envoies vers nos voisins, vers nos prochains, vers ceux qui sont là autour de nous, que nous croisons en chemin chaque jour. Seigneur, tu as des paroles pour ces personnes-là. Et nous sommes tes porte-paroles, nous sommes tes ambassadeurs. C'est nous que tu envoies vers ces gens-là. Seigneur, nous avons parfois peur. Nous voulons le confesser devant toi. Pourtant, il est dit que tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, mais de force, que tu fais de nous tes témoins, Seigneur, et nous avançons avec crainte et tremblement. Ben finalement, on apprend que Paul aussi est venu avec crainte et tremblement, y compris devant des frères et des sœurs en Christ, mais que sa parole, ça a été une parole qui ne venait pas de lui, une parole qui venait de toi, une parole de puissance, de ta puissance. Alors il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas de nos peurs, il ne s'agit pas de ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire, il s'agit juste de recevoir ta parole sur notre cœur et d'ouvrir notre bouche. Ouvrir notre bouche pour la transmettre, parce que c'est une parole qui fait du bien, une parole qui édifie, une parole qui parfois choque et bouscule, une parole qui peut provoquer le rejet, parce que ta parole de vérité est une parole de bonne odeur pour les uns et elle ne sent pas bon pour les autres. Mais ça, ce n'est pas entre nos mains. Ça, c'est dans les mains de celui qui la reçoit. Seigneur, nous te demandons de renouveler cet esprit de force et de sagesse en nous, pour que notre bouche s'ouvre et pour que ton évangile se répande. Au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter l'équipe de